frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile ce dimanche, ce n'est ni un publicain ni un pharisien qui se trouve à la rencontre du Seigneur Jésus, mais quelques sadducéens. Les sadducéens tirent le nom de leur mouvement du grand prêtre Sadoc. Et voilà que dans la tradition d'Israël, cette caste sacerdotale a son propre mouvement religieux. À l'époque de notre Seigneur, il existe quatre mouvements juifs importants. Celui des pharisiens, qui, fidèles à la tradition d'Israël, demeurent soumis à la loi, aux prophètes, comme à la tradition rabbinique. Et nous contemplons la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, fidèles de ce mouvement, se rendre à Jérusalem en pèlerinage, de telle sorte que lorsque le Seigneur épingle les pharisiens, il connaît ceux qui font partie de sa communauté. Ensuite, il y a les Esséniens, qui sont disciples plutôt de Jean le Baptiste, qui prêchent la conversion. Il y a les Zélotes, le bras armé d'Israël. Il est bien beau d'attendre le Messie, mais voilà qu'il y a une milice de résistants pour montrer à l'occupant romain qu'ils ne sont pas les bienvenus en terre d'Israël. Et enfin, se trouvent ces sadducéens. Issus donc d'une caste sacerdotale de la tradition des grands prêtres, les sadducéens ne croient pas davantage en l'existence des anges, pourtant innombrables dans la révélation biblique, mais d'eux-mêmes ne comprennent pas et ne veulent pas entendre parler de la résurrection des morts. Cette foi habite Israël, mais cette révélation sur la résurrection des morts arrive progressivement. Dans la première épître, nous avons entendu la lecture du livre des martyrs d'Israël et cette mère qui préfère que ses enfants meurent ici-bas, fidèles à Dieu et à sa loi, plutôt que d'obéir aux injonctions de ces païens. Pourquoi ? Car, dit-elle, je préfère que vous mouriez ici-bas, sur la terre, fidèle à Dieu et aux valeurs de nos pères, et vous retrouvez ainsi vivant pour l'éternité à la résurrection, plutôt que de vivre quelques années ici-bas et encourir la mort éternelle. Belle leçon de cette mère et de ses 7 enfants qui seront chacun martyrisés. La foi en la résurrection et en la résurrection de la chair a fait là une première étape. Lorsque le Seigneur Jésus veut parler de la résurrection, vous l'avez entendu, il n'entre pas dans l'exemple un peu tiré par les cheveux que prennent les sadducéens pour piéger le Seigneur Jésus. En effet, j'ouvre une parenthèse que je refermerai bien vite, dans la tradition de Moïse, lorsque une personne de notre parenté, notre frère, n'a pas donné de descendance, eh bien voilà qu'il va falloir qu'il épouse sa belle-sœur pour lui donner un fils. Ce fils, il ne l'appellera pas « mon fils », il s'agira pour lui d'un neveu, il engendre une descendance à son frère, d'où là l'exemple un peu tiré par les cheveux des sadducéens, où 7 frères ont épousé la même femme et aucun n'a eu d'enfant. Alors vous vous imaginez, Seigneur, de qui peut-elle être l'épouse avec vos idées de résurrection? Le Seigneur n'entre pas dans le piège des sadducéens. Le Seigneur rappelle que lorsque nous sommes en paradis, eh bien ce n'est pas qu'il n'y a plus d'époux et d'épouses, mais en tous les cas, le mariage a pris fin. Lorsque nous sommes mariés ici-bas sur la terre, je rappelle que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au ciel, cela ne veut pas dire que l'époux, l'épouse sont dans l'indifférence. Non, ils ont bien été un seul cœur et une seule âme. Mais voilà qu'ils sont maintenant dans la contemplation de Dieu. Ce n'est pas en paradis que nous allons donner naissance à quelque enfant que ce soit. Les enfants, nous leur donnons naissance ici-bas sur la terre et ils naissent à la vie de la grâce et à la vie du ciel en renaissant de l'eau et de l'Esprit Saint dans le sacrement du baptême. Bien sûr, nous portons la dévotion à Saint Joseph, que nous qualifions toujours d'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Cela ne veut donc pas dire qu'il n'y a plus de lien entre les époux en raison de l'amour qu'ils auront eu et partagé ici-bas sur la terre, mais l'amour qui nous attend au ciel est beaucoup plus grand que l'amour conjugal, que l'amour familial. Il s'agit d'aimer comme Dieu aime, et alors notre cœur découvrira le bonheur sans fin. Lorsque le Seigneur veut parler de cette résurrection, il dit bien que Moïse, lorsqu'il lui a été donné d'entendre Dieu se présenter à lui, n'a pas parlé de ses ancêtres comme des personnes mortes et des personnes qui ne seraient plus dans la mémoire de Dieu. Le Seigneur, lui qui est le vivant, s'est présenté comme le Dieu d'Isaac, de Jacob. Il n'en a pas parlé comme « j'étais le Dieu de tes pères ». Je suis le Dieu de tes pères dans cette éternité divine, car tous nos fidèles défunts sont présents, maintenant qu'ils ont quitté le mystère du temps, à l'éternité divine. Nous prions plus particulièrement en ce mois d'octobre pour toutes les âmes de nos fidèles défunts qui, en purgatoire, purgent cette peine pour que toute la lumière soit faite sur leur existence et entre alors en paradis. Nous prions avec les saints du ciel pour leur repos, que bien vite ils parviennent aux sources vives du salut. Quant à nous, nous croyons véritablement à la vie du monde à venir. Nous savons que nous ne plaçons pas seulement notre foi ici-bas sur la terre, mais tout autant pour mériter la vie éternelle. Enracinés dans l'amour de Dieu, nous sommes renvoyés à l'amour du prochain, nous avons à aimer comme Dieu nous aime, de telle sorte que nous avons également, au dernier jour, dans ce jugement particulier, une mesure qui nous sera accordée. La mesure dont on se sera servi pour les autres servira également pour nous. Ce qui veut dire que le juge impitoyable, la langue de vipère qui épingle tout le monde de son venin, sera jugée avec la même mesure par le bon Dieu dont elle s'est servie pour juger et épingler les autres. C'est pourquoi le Seigneur nous insiste dans sa prière du Notre Père pour que le pardon des offenses qui nous sont faites est le gage du pardon que Dieu nous accordera. Alors nous supplions le Seigneur de nous aider ici-bas à préparer notre âme à la vie du monde à venir. Nous supplions également le bon Dieu de nourrir en nous cette foi en la résurrection de la chair. La mort est une séparation de notre âme qui paraît face à Dieu, de ce corps que nous déposons en terre. Si l'âme de nos défunts, comme l'âme des saints, entre dans la pleine lumière du paradis, ils attendent, nos fidèles défunts en paradis, la résurrection de la chair au dernier jour. C'est bien ce que nous dit le Seigneur. Nous sommes par le baptême enfants de Dieu. Mais il a également, dans cette page d'Évangile, cette belle précision, enfants de Dieu, enfants de la résurrection. Oui, le Seigneur nous enfante à la vie. Et si nous contemplons un tant soit peu la création qui nous entoure, nous ne pouvons que voir ce mystère de mort et de renaissance dans le changement de saison. À l'hiver, voilà que le printemps va manifester cette renaissance. Oui, toute la création porte la marque de cette résurrection promise à nos corps de chair. Pourquoi le bon Dieu se serait-il dépensé dans son amour et sa bonté pour nous créer, si c'était pour nous laisser dans la mort des enfers? Non, le bon Dieu veut pour nous la vie et la vie éternelle. Il nous a façonnés au commencement avec cette terre pour nous rappeler que nous appartenons à ce monde, mais il nous promet la vie du monde à venir. Alors n'ayons de cesse, en le mois de novembre, de prier pour nos fidèles défunts, pour qu'ils reposent dans la paix. Nous supplions la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, le patron de la bonne mort, de nous accompagner également en ces derniers instants que nous aurons à vivre ici-bas pour que, comme lui, bienheureux patriarche, nous puissions passer de vie à trépas en compagnie de la bienheureuse Vierge Marie et de l'enfant Jésus pour nous entendre dire au plus vite par le bon berger « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, ainsi soit-il ».